Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. L'émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en ce matin par Jean-Guilain Meige. Dernier volet de notre série consacrée à l'Amérique du Sud, ce sous-continent sous tension, après avoir évoqué lundi les échecs du néolibéralisme en Argentine et au Chili, mardi la condition des indigènes en Bolivie sur fond de contestation électorale, hier le retour du militarisme du côté du Brésil, tournons-nous aujourd'hui vers le Venezuela, en proie à une crise délétère malgré ses colossales réserves de pétrole.
Le pétrole doit être utilisé comme un moyen d'émancipation pour le Venezuela, son développement et pour créer des opportunités pour la société. C'est le véritable défi de la production de pétrole de notre pays.
Le pétrole étant le sang de ce régime corrompu, cette semaine, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre l'entreprise publique pétrolière vénézuélienne. Le pétrole vénézuélien appartient au peuple vénézuélien.
La situation est compliquée. Les sanctions économiques et la persécution de l'Empire américain ont fortement entravé le processus économique interne. Nous cherchons sans relâche la voie du développement futur, de l'expansion des forces productives, et nous avons pour axe central de reconstruire notre industrie pétrolière. Malheureusement, dans le secteur pétrolier, une mafia a pris racine, et une mafia qui a pillé la société PDVSA.
Dans l'ordre, Juan Guaido, Mike Pence et Nicolas Maduro, le pétrole au cœur des enjeux politiques et géopolitiques au Venezuela. Inflation démentielle, exode démographique massif, retour de la mortalité maternelle et infantile, le Venezuela est depuis plusieurs mois maintenant au bord du chaos, entre effondrement économique, crise politique majeure avec un président Chavez, Nicolas Maduro, qui entérinait son maintien à l'issue d'élections entachées d'irrégularités en janvier dernier, pendant que son opposant, Juan Guaido, se déclarait président par intérim. Une situation désastreuse que la rente pétrolière n'a pas permis d'empêcher, voire même peut-être qui en serait la cause. Comment expliquer que la richesse des sous-sols du Venezuela ne lui ait pas permis de développer une économie viable? Ces immenses richesses seraient-elles responsables du malheur du pays, comme le suggère la théorie répandue dite de la malédiction du pétrole? Que révèle l'histoire du Venezuela s'agissant du lien entre la répartition de la manne pétrolière et le caractère démocratique ou non démocratique de son régime? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Paula Vasquez-Lezama. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, anthropologue, chercheuse au CNRS, une spécialiste du Venezuela. Vous avez publié très récemment « Pays hors service Venezuela, de l'utopie au chaos » qui est paru chez Buchet-Castel. Ça fait maintenant 10 mois que Juan Guaido tente d'évincer Nicolas Maduro de la présidence du pays, en vain. Dans quelle mesure, Paula Vasquez, cette crise politique se prolonge-t-elle du fait des ressources pétrolières? Est-ce qu'on peut penser que si le pays ne disposait pas de cette richesse, Nicolas Maduro n'aurait pas pu se maintenir jusque-là?
Disons que je refuse un peu tout déterminisme, c'est-à-dire il n'y a pas une relation cause-effet et je ne pense pas qu'il y ait une identification ou qu'il y ait une sorte... Cette malédiction, il faut la mettre un peu en cause. Pourquoi? Parce que les critères de la rente pétrolière ou des revenus qui perçoit l'État sont les critères de redistribution de cette manne et de cette rente, ils sont politiques. Donc, la responsabilité, c'est plutôt de ceux qui gèrent les ressources, pas des ressources, les ressources en tant que telles. Donc, là, il y a eu une question des choix politiques qui ont été effectués depuis 1999 avec l'arrivée de Chavez au pouvoir, dont on voit les conséquences une vingtaine d'années après. Mais ce sont des choix politique concernant la redistribution de la rente, ou plutôt que distribution et redistribution, parce que ce sont des mots pièges, plutôt qu'est-ce qu'on fait avec cette rente, où est-ce qu'on va la réinvestir, où est-ce qu'on va l'investir, où est-ce qu'on va la dépenser.
Mais sauf que cette question-là, moi je l'ai appris, parce qu'on va faire avec vous, Paula Vasquez, un travail d'histoire. Vous êtes remonté très loin, au début de l'exploitation pétrolière, 1912, on y reviendra tout à l'heure, mais on sent bien que ça a toujours été une question qui a travaillé le Venezuela. En réalité, cette question de la répartition de la manne pétrolière et de la manière dont on l'articulait avec la... Alors, j'aime pas trop non plus cette formule, mais la démocratisation du régime. Ça a toujours été un élément absolument central sur lequel laquelle on s'est beaucoup interrogé.
Parce que c'est
preuve
la...
qu'on sait bien que c'est au cœur des problèmes.
Complètement, c'est la base même de la constitution de l'État moderne. Il y a un anthropologue, Fernando Coronil, qui parlait des deux corps, les corps au sous-sol et les corps extérieurs au sol. C'est-à-dire les destins, bien sûr, de cet État moderne, c'est les sous-sols. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette richesse-là? Et là, il y a surtout, il faut retenir que c'est depuis 1976 qu'on peut dire que c'est la deuxième indépendance du pays. C'est-à-dire dans la mesure où l'État peut avoir le contrôle des concessions et de faire de la rétrocession des concessions.
Ça, c'est la date de la nationalisation.
C'est la date de la nationalisation. Et à ce moment-là, l'État devient souverain, justement, dans la gestion de la manne de cette ressource à partir d'une entreprise, d'une compagnie nationale qui devient extrêmement forte.
Oui, parce que la nationalisation, elle n'est pas de l'époque de Chavez, comme on l'entend parfois, mais ça, on y reviendra. Restons, si vous le voulez bien, pour le moment, en tout cas, à la période contemporaine. Vous avez entendu Juan Guaido qui s'exprimait en février dernier sur l'utilisation de la ressource pétrolière, ensuite Mike Pence qui s'expliquait sur les sanctions américaines qui touchent évidemment le secteur du pétrole. On a entendu Nicolas Maduro qui lui aussi évoquait cette question du pétrole. Il y a quelques jours encore, Paula Vasquez, l'équipe de Juan Guaido déposait une plainte devant la justice américaine pour tenter de sauver Citgo, qui est la filiale de la compagnie pétrolière PDSVA américaine, filiale américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'essentiel de l'enjeu politique, l'essentiel de la bataille, se fait autour de la question du pétrole?
Se fait autour de la question du pétrole à cause des créanciers, à cause des engagements lors de l'époque de Chavez ou avant l'époque de Chavez, et que Chavez a modifié la manière dont ces engagements allaient être accomplis, disons. Et là, on est en main des créanciers. PDVSA et Citgo sont surendettés. Il y a un surendettement énorme de ces entreprises et surtout PDVSA, elle est devenue improductive. Donc, on est d'une part surendetté avec les Chinois, avec ces concessions qui ont été octroyées à partir et on a reçu en contrepartie des prêts qui ont été déjà tous dépensés. C'est ce qu'on appelle les fonds chinois. Et il y a les Russes qui sont en train de voir comment ils vont récupérer tous les fonds qu'ils ont prêtés à l'État vénézuélien. Ça, c'est un peu à l'interne. Et d'un autre côté, Citgo, on est toujours en train de la perdre, entre guillemets, justement à cause des bons, des obligations, que l'échéance, c'était en octobre dernier, la semaine dernière. Et là, ça a été reporté à janvier. Et en ce moment, les sanctions américaines qui ont été imposées par Trump en janvier 2019 concernaient justement le Venezuela, les pays, les territoires nationaux ne peuvent pas recevoir les carburants issus de Citgo, qui est sa raffinerie, qui est son actif à l'étranger. Et là, la sanction, elle est très forte pour les Vénézuéliens. Et donc, Citgo, que c'est donc un réseau important des stations de service aux États-Unis, plus les raffineries de Lake Charles en Louisiane, etc. Cette entreprise-là, ses revenus actuels, c'est-à-dire l'argent qu'elle gagne, il est placé
Il
est bloqué, mais il est placé sous fiducie. Et Guaido et le gouvernement de Guaido compte sur cette fiducie et sur ce fonds-là pour un éventuel gouvernement de transition.
Et est-ce qu'on peut penser que la justice américaine pourrait donner raison à Guaido et en tout cas permettre justement le déblocage de ces montants-là?
L'enjeu, c'est faire confiance à Trump, ce qui est énorme. C'est-à-dire, ça a été très compliqué justement pendant les mois d'octobre, et on a retenu tous les souffles parce qu'on se disait qu'est-ce que va faire Trump avec cette question de la pression pour lui des créanciers qui pourrait amener à la perte de Citgo par l'administration, entre guillemets, administration Guaido. Et ça a été reporté jusqu'à janvier. C'est-à-dire, c'est un équilibre extrêmement fragile et complexe il faut voir surtout toutes les ramifications d'une économie pétrolière qui est complexe. Pourquoi elle est complexe? C'est pas la complexité, c'est complexe partout. Les problèmes, c'est qu'on est en train de vivre les conséquences d'une politique qui a été très irresponsable pendant une vingtaine d'années au Venezuela. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de ne pas, on a décidé d'anéantir cette industrie. On a décidé d'anéantir cette compagnie et de la mettre dans une situation telle de fragilité financière qu'aujourd'hui on est la proie des créanciers à l'interne, à l'externe et global. Il faut le voir dans un contexte mondialisé.
Paula Vasquez, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'attitude de l'administration américaine aujourd'hui? Il y a ce report, donc on comprend bien que d'une certaine manière, on est en train de temporiser. Pourtant, très clairement, en tout cas dans un premier temps, l'administration américaine, Donald Trump, soutenait Juan Guaido. On se souvient des déclarations du mois de janvier où même l'hypothèse d'une intervention militaire avait été mise sur la table. Là, on voit très bien que c'est plus du tout le cas, qu'on est dans une phase plutôt où on temporise. Concrètement, qu'est-ce que vous comprenez du soutien réel de Donald Trump et de l'administration envers Juan Guaido?
Disons,
aujourd'hui.
Oui, il y a des enjeux qui ont à voir avec les législateurs républicains avaient exhorté le président Trump d'empêcher la scission des CITGO. Pourquoi? Parce que ça peut aussi être une menace pour les États-Unis. C'est-à-dire, CITGO signifie aussi de l'emploi aux États-Unis. C'est énorme, c'est une entreprise importante. Donc, laisser que deux raffineries de pétrole soient en faillite au sud des États-Unis, qui est une zone déprimée au niveau économique, c'est pas facile. Laisser les employés de la Louisiane créer du chômage en ce moment des campagnes électorales, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a eu le choix de sauver les actifs des PDVSA qui se trouvent aujourd'hui aux États-Unis. Et tout le monde veut les actifs parce que tout le monde veut être payé. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de belle volonté pour la démocratie vénézuélienne. C'est que ils savent que si on a une chance, aussi les entreprises qui ont été expropriées, nationalisées, il y a la pression de Exxon qui est restée, il y a Conoco, c'est-à-dire c'était extrêmement complexe et tout le monde veut que ces actifs-là survivent parce qu'on souhaite récupérer son argent. Un peu la position de la Russie et de la Chine, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire faire une pression parce qu'ils savent que Maduro, c'est une gestion économique catastrophique et les Russes, combien des fois manifestent en secret leur profonde inquiétude pour l'économie vénézuélienne parce qu'ils souhaitent être remboursés.
Alors justement, j'allais y venir, Paula Vasquez-Lezama. La Russie, là, il y a eu récemment, ces derniers jours, ces dernières semaines, des rumeurs qui ont circulé, alors en particulier dans les médias d'opposition, sur la possible cession de la compagnie pétrolière nationale PDVSA au géant russe Rosneft. Qui permettrait d'annuler la dette de Caracas vis-à-vis de Moscou. Est-ce que c'est une hypothèse sérieuse qu'on envisage aujourd'hui du côté du gouvernement Maduro?
Le gouvernement de Maduro, il est hermétique et c'est un pays où il n'y a pas de presse fiable. C'est-à-dire, à qui croire dans cette histoire? Lorsqu'on a des sources sur le terrain, on sait qu'il y a les raffineries vénézuéliennes qui sont gérées par Rosneft déjà directement. C'est le cas du complexe de Paraguana d'Amouaï.
Donc les Russes ont déjà la mainmise sur le pétrole
et
vénézuélien.
Depuis un moment, depuis que j'ai fait des enquêtes en 2015, ils étaient déjà dans les raffinages et dans l'exploitation du gaz, parce qu'il y a aussi du gaz. Il y a du gaz offshore qui est extrêmement lucratif, qui est une sorte de le caviar des hydrocarbures, parce qu'il a très peu besoin de raffinage et il peut c'est pas le cas des pétroles lourds et extra lourds du bassin de l'Orénoque. Donc Rosneft, elle est déjà là. Or, de combien on ne sait pas, c'est-à-dire il y a des contradictions permanentes dans les sources, mais il faut aussi comprendre que si jamais ils sont dans les installations vénézuéliennes, ce sont des épaves. La raffinerie d'Amouaï produisait à l'époque de Chavez, était en capacité de raffiner 1 million de barils par jour. Elle était au niveau de celle de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Amouaï, elle est à 60 000 barils, c'est-à-dire elle est à l'arrêt. La raffinerie est à l'arrêt. Donc, mais on peut raisonner d'une manière d'un capitalisme très, rapace et dire, prends ton épave, c'est toujours intéressant dans les domaines pétroliers parce qu'un jour ça va démarrer et on est en train de profiter des pires conditions des négociations du gouvernement vénézuélien qui est en ce moment sûrement, et c'est à mon avis, en train de brader ces installations et des puits possibles à être exploités dans un futur, parce que les pierres seront toujours là, comme on dit, dans les domaines.
Où va ce pétrole vénézuélien exploité par les Russes? Il est utilisé par le consommateur russe, on le met dans les voitures russes.
Il y a, ça c'est aussi très difficile à dire, car à comment est-ce que le pétrole vénézuélien est en train de commercialiser. Voyez, dans le cas de la marée noire du Brésil, la rumeur c'était que c'était du pétrole vénézuélien commercialisé par un cargo de Singapour qui est en train, avec des drapeaux de Singapour, qui fait du bateau à bateau un autre mer. Enfin,
Faites référence à une catastrophe écologique qui a lieu maintenant au Brésil avec 130 plages sur lesquelles viennent des galettes de brutes.
Des galettes de brutes. Et on dit que c'est un pétrole vénézuélien. C'est ce qu'a dit la presse brésilienne, mais Bolsonaro n'a pas confirmé cette hypothèse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État vénézuélien et PDVSA elle-même, elle a perdu la main dans la commercialisation d'un pétrole qui s'est fait d'une manière non déclarée. Et ça, c'est extrêmement grave parce que le Venezuela peut dériver à ce moment-là à une situation similaire à celle du Golfe du Niger, par exemple au Nigeria, dans lequel des groupes irréguliers gèrent directement la commercialisation du pétrole. Ça, c'était pas le cas avant. Ça, c'était pas le cas avant. C'était PDVSA qui commercialisait son pétrole. Aujourd'hui, c'est un problème à cause des sanctions. Donc, les PDVSA et Kevin Peck, etc., cherchent des canaux, des moyens alternatifs, des commercialisations du pétrole, mais ça affaiblit.
Et c'est la Russie qui organise ça?
Non, je pourrais
la
pas dire ça.
La mise en place de ces canaux alternatifs?
C'est difficile d'affirmer. Ouais. Là, j'aurais pas, de mes modestes ressources de recherche, je ne peux pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, comment on arrive à cette conclusion-là? Parce qu'il y a des décalages dans les déclarations des quotas de production. Et PDVSA dit qu'on produit une telle quantité. L'OPEP dit que le Venezuela produit une telle quantité. Et après, on sait par la commercialisation qu'une autre quantité. C'est-à-dire aucun chiffre coïncide. Et quand il y a une telle disparité de chiffres, c'est qu'on a perdu la main dans la commercialisation du pétrole.
Paula Vasquez, les amas, il faut parler de l'armée. Parce qu'évidemment, on sait que dans ce conflit, la question du soutien de l'armée envers le régime de Maduro est essentielle. On a vu au début de la crise, on a eu l'impression que peut-être un ralliement allait se faire. Il y a eu au mois d'avril un vrai mouvement avec un certain nombre de cadres de l'armée qui ont rejoint Guaido. Et puis finalement, quand même, l'essentiel des troupes reste clairement derrière Maduro. Comment le comprendre et surtout, quel lien est-ce qu'il faut établir avec la question du pétrole? Parce que là, on a cette image, peut-être que c'est Maduro qui finalement a un accès direct et qu'il gère lui-même la manne pétrolière, mais est-ce que finalement la réalité n'est pas autre et est-ce que ce n'est pas l'armée qui précisément a la main sur ce pétrole?
En effet, et ça remonte à 99. Il faut remonter très loin dans cette situation. 99 et après 2003, lors de la grève du pétrole qui a, dans le contexte du coup d'État manqué contre Chavez en 2002. À ce moment-là, Chavez a fait le choix de faire une énorme purge des cadres de la compagnie pétrolière et on a remplacé systématiquement des
dans
les cadres.
Dans le pur style chavéiste, c'est-à-dire à la télévision en direct où on donnait les noms
sifflets.
Des gens.
Exactement. Ça, c'était pour la dimension spectaculaire de la chose. Mais ce qui s'est passé, disons, dans les installations, c'est que tous ces cadres-là ont été remplacés par des militaires qui n'avaient aucune formation pour gérer une compagnie d'une telle complexité. Même dans la gestion de la raffinerie d'Amway, on a mis, et c'était presque comme un film comique, qu'on met un général de l'armée des terres devant un tableau de bord d'une raffinerie qui raffine 1 million de barils par jour. Il voit plein de boutons qui clignotent. Et comment gérer ça? Ça a été une catastrophe. C'est-à-dire, on a viré les cadres les plus formés et qui étaient dans les standards des majors du pétrole international, etc., qui avaient fait tous des études à l'étranger, qui étaient revenus au Venezuela. C'était un peu la fierté nationale. C'était les cadres et les ingénieurs et aussi les cadres moyens et les ouvriers, même les ouvriers techniciens. Aujourd'hui, PDVSA, il a 3 fois plus d'employés avec un niveau de gestion extrêmement bas. Mmh. Et là, ce remplacement des militaires, ça a été crucial parce qu'on a été dans une sorte d'appropriation de la compagnie.
Mais justement, vous le dites, la production de pétrole s'est effondrée quand on regarde les chiffres. En 98, au moment où Chavez est élu, le pays produit 3,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, les chiffres de l'OPEP, c'est 800 000 barils par jour et c'est même, si on regarde septembre, 650 000 barils par jour. Donc ça s'est totalement effondré. L'armée pourrait se dire que cet effondrement est catastrophique et que donc il vaut mieux miser sur Guaido plutôt que sur Maduro pour précisément faire remonter le niveau de production. Là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Pourquoi est-ce que l'armée continue de soutenir Maduro alors même que la production du pétrole s'est effondrée et que donc ça lui rapporte beaucoup moins à cette armée?
Parce que justement, le problème, c'est la répartition du peu de revenus qui peut rester et pas la production. C'est-à-dire, on a décidé de réduire drastiquement les investissements aussi et de rester avec l'argent comptant. C'est comme un investisseur irresponsable, c'est très irresponsable. C'est-à-dire, c'est avoir un peu d'argent sûr au lieu de penser à l'économie nationale et de créer de l'emploi en faisant une économie non pétrolière solide.
Et vaut mieux avoir un peu d'argent maintenant qu'un peu plus.
C'est la voracité, c'est une voracité, ça a été une...
Seulement quand vous avez 900 000% d'inflation l'année.
Ah, parce qu'ils ont des dollars.
Oui.
C'est les bolivars qui sont l'inflation. Ils ont des dollars, justement. Et là, c'est la clé de voûte, c'est la question de l'accès aux devises. Parce que l'économie nationale, elle est soumise à un contrôle d'échange qui favorise toutes sortes de spéculations aussi. C'est-à-dire, on devient milliardaire très, très vite et c'est très intéressant d'investir en bolivar. C'est la semaine, il y a un jour, vient de se faire la grande révélation, la presse Armando Info. Il vient de dire, de publier la nouvelle qu'il y a les fils, les enfants de Maduro, de la femme de Maduro, Cecilia Flores, ont acheté 14 maisons de luxe dans le sud-est de Caracas, argent comptant, tout à la fois dans une même rue.
Payé en dollars.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, il ne s'agit pas d'un système de corruption. Parce que la question de la malédiction des ressources, elle consiste à dire que c'est plus intéressant d'importer, dans le cas plutôt de la maladie hollandaise, c'est plus intéressant pour un pays pétrolier d'importer au lieu que de produire. Tous les pays pétroliers passent par cette situation-là. L'Algérie, c'est un cas classique. Mais là, on est bien au-delà de ça. Parce que c'est pas uniquement une question de subventions et de surprises, c'est tout un système de corruption qui permet que les devises du pétrole Venezuela soient placées dans le système financier international d'une manière systématique. Et c'est dans le système financier international et les paradis internationaux et des paradis fiscaux qui se trouvent les PIB d'une nation entière.
Récemment, Maduro a expliqué qu'il avait un plan pour doubler la production de pétrole dans les prochains mois. C'est quoi son idée et est-ce qu'on peut penser qu'effectivement ça peut marcher? Parce que c'est aussi, cette baisse de la production, un élément de risque pour lui. Alors on peut penser qu'il a réellement l'ambition, la volonté d'augmenter cette production.
C'est impossible. C'est complètement impossible. Les installations pétrolières sont complètement sinistrées. La main-d'œuvre aussi, les classes ouvrières vénézuéliennes ont déserté complètement. Il y a eu des reportages, d'ailleurs, dans la presse française sur ces villes pétrole qui sont complètement sinistrées. Ce sont des dystopies. Les villes pétrole vénézuéliennes, la classe ouvrière, elle est aussi partie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opérateur pour faire ça. Et il y a certains puits qui ont été tellement malmenés qu'il faut les fermer définitivement, car ce sont des installations industrielles qui ont besoin de la maintenance et là c'est à risque. C'est une population qui est à risque parce qu'ils vivent dans une épave du pétrole.
Alors il y a l'or, mais il y a peut-être un autre plan pour Maduro justement. C'est l'or. Écoutez.
Procéder à approuver, entregar una mina de oro
Je vais procéder à approuver et livrer une mine d'or en pleine capacité productive à chaque gouverneur des États bolivariens ici présents, et ce, pour la production de ressources en devises convertibles pour notre peuple.
Paul Vázquez Lezama, l'or, c'est le plan B pour Maduro pour se maintenir?
C'est indignant.
C'était en octobre dernier, c'était il y a 15 jours, 3 semaines.
C'est un retour au 19e siècle, à l'époque dans laquelle les caudillos géraient les mines d'or. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas d'État il n'y a pas d'État, des renditions de comptes, il n'y a pas de déclarations fiscales. Ça veut dire que l'argent de l'or ne va pas aller à la banque centrale. Ça veut dire que tout l'argent de l'or pourra être parfaitement détourné. Ça veut dire que des gouverneurs chavistes vont devenir les administrateurs d'une ressource qui est une ressource nationale, parce que tout ce qui est sous-sol au Venezuela appartient à l'État. Et là, on est dans une sorte de privatisation néolibérale avec une très forte touche du 19e siècle des caudillos, c'est-à-dire c'est un cauchemar dans une époque où il faut savoir aussi que cet or-là se trouve dans les forêts amazoniennes vénézuéliennes qui ont été complètement dévastées. Le bassin de l'Orénoque et l'Orinoquia, qui est l'équivalent à l'Amazonie, c'est un désastre écologique.
Désastre écologique à venir.
Inimaginable. Non, déjà en place. Déjà aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des forêts qui ont déjà complètement disparu des cartes lorsqu'on voit des images satellitales. Et c'est-à-dire il peut pas avoir des incendies comme l'Amazonie brésilienne parce qu'il n'y a pas de forêt pour brûler. Il y a du sable lavé avec du mercure, des hectares entiers. On parle très peu de la catastrophe écologique avec la politique des concessions des mines d'or du gouvernement de Maduro.
Alors, il y a la catastrophe écologique, mais essayons de comprendre pourquoi Maduro fait ça. Évidemment, ça lui permet d'avoir de l'argent, de se maintenir, de faire du clientélisme, de faire fi de ce problème de la devise du Bolivar. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'ambition pour lui d'échapper à l'influence étrangère, d'échapper à la voracité, pour le coup, des pays qui veulent mettre la main sur le pétrole vénézuélien?
Dans les cas de l'or, c'est un peu différent que du cas du pétrole, et c'est déjà la voracité, elle est déjà là.
Il y a des
concessions de mines dans l'arco minero, c'est-à-dire c'est une sorte de, il y a un saucissonnage du territoire, découpage en morceaux à partir des concessions des entreprises minières très inescrupuleuses dans toute l'Amazonie vénézuélienne. Mais c'est pas comparable la question de l'or à celle du pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, ça a été toujours une compagnie nationale qui a géré ça, et on fonctionne pas de la même manière. L'entreprise, la compagnie PDVSA, c'est pas ce qui reste d'elle, parce qu'aujourd'hui il faut tout la reconstruire, mais ce n'est pas la même chose, parce que on obtient l'or d'une certaine manière, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un investissement industriel, c'est l'or de l'or pailleur. Il y a un certain contrôle dans les cas de la compagnie des pétroles. Et la compagnie de pétrole produit un revenu fiscal, c'est-à-dire elle paye des impôts. Les impôts payés par l'or, lorsque ça va être géré comme ça, ben on peut sourire parce qu'on sait qu'il y a un détournement total et que l'État ne va pas se bénéficier, l'économie vénézuélienne ne va pas se bénéficier d'une exploitation faite dans ces termes.
Je vous propose, Paula Vázquez, de plonger maintenant dans l'histoire du pays, parce que dans votre livre « Pays hors service », vous revenez au tout début de l'histoire pétrolière du pays, depuis l'exploitation du premier gisement sur le lac Maracaibo en 1912. D'ailleurs, vous expliquez dans votre livre votre première visite avec votre oncle et votre tante sur ce site. Vous expliquez comment, dès le départ, il va y avoir une mauvaise gestion de cette rente pétrolière, notamment de la part des deux dictateurs de l'époque, Juan Vicente Gómez et Marcos Pérez Jiménez. Vous dites que l'un et l'autre, je vous cite, ont recouru à la prestidigitation pour s'approprier la rente pétrolière tout en suscitant une illusion de progrès. Mais il y a quand même un homme, Paula Vázquez, qui peut-être avait une certaine vision justement de la manière dont il fallait gérer cette rente pétrolière. Je vous propose de l'écouter. C'est Romulo Betancourt, c'est en 1978 et il évoque justement cette question du pétrole.
El petróleo de Venezuela, uno de los libros ahora publicado por Ceibarral, es el petróleo a partir de 1958 hasta después de la nacionalización, porque hay un apéndice en el cual se analiza.
Alors, en quelques mots, Romulo Betancourt est là en 1977 dans une interview. Il explique, il parle d'un livre qu'il a publié, Le pétrole du Venezuela. Il essaye d'expliquer comment est-ce que ce qu'avaient été les effets de la nationalisation, et puis évidemment de parler de cette réalité du Venezuela telle qu'il l'aperçoit là dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce personnage qui, rappelons-le, a été président deux fois entre 45 et 48 et entre 59 et 64, qui est le fondateur du Parti National Démocratique en 1937. Ce personnage et surtout la vision qu'il avait du développement du Venezuela et la manière dont il fallait s'appuyer précisément sur cette manne pétrolière. Paula Vasquez.
C'est un personnage crucial, important, dont l'image a été souvent distorsionnée. On cite les choses. Aujourd'hui, c'est un peu oublié la densité de la pensée de Betancourt sur le pétrole. C'est-à-dire, il était conscient que le Venezuela avait un sous-sol trop lucratif. Et lorsqu'on a un sous-sol trop lucratif, on peut se demander comment gérer justement ces revenus qui n'est pas produit par la société elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le père surtout, et pas uniquement lui, c'est-à-dire qu'il est en discussion, parce que c'est des intellectuels vénézuéliens qui se penchent sur la question, surtout les économistes, qui vont être souvent présidents de la Banque centrale, comme Massa Zavala aussi. C'est un peu la pensée d'un nationalisme pétrolier. Le nationalisme vénézuélien, il est avant tout pétrolier. Et les points de clivage, c'est pas la première grève des ouvriers du pétrole du Venezuela, c'est en 1936. C'est le début du syndicalisme dans lequel les ouvriers des entreprises nord-américaines des États-Unis se soulèvent et font des revendications. Et là, c'est un premier coup fort pour les entreprises des États-Unis qui vont définitivement après quitter le pays en 76. Et là, c'est un processus long, complexe de négociation de la quantité d'argent qui va venir à l'État. On arrive jusqu'au 50-50, à un moment donné.
C'est le grand principe de Betancourt, la loi 1948, 50-50. Exact. C'est quoi cette loi, le principe, la philosophie même?
La question, c'est combien ça reste pour l'État vénézuélien et combien partent pour les entreprises des États-Unis dans le revenu pétrolier.
États-Unis, puis à l'époque aussi l'Angleterre, les Pays-Bas qui sont en jeu aussi.
Oui, parce qu'il y avait Shell qui était très forte. Shell, après, ça va devenir une entreprise qui s'appelle Marabeng. C'est-à-dire chaque entreprise, après la nationalisation, prendra une filiale vénézuélienne. Mais cette question, c'est la constitution elle-même de la démocratie vénézuélienne. Elle est un dialogue anti-impérialiste. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'était pas de la quête de l'Empire, comme on peut penser. C'était justement des hommes qui étaient en train de négocier comment avoir la main sur les revenus et comment après former une classe ouvrière et des cadres qui soient capables de gérer ça tout seul. Et c'est ce qu'ils ont réussi, sauf que ça a une durée limitée, parce qu'après il y avait un modèle interne qui n'a pas fonctionné pour des raisons complexes, c'est-à-dire Betancourt après.
Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il perd les élections après. Alors c'est toujours le problème, hein, quand on organise des élections libres, c'est toujours le risque, hein, on peut les perdre. Il les perd et puis ensuite son successeur va être renversé par un dictateur.
On a été rattrapé. Ça c'est
qu'est-ce qu'il a raté
dans la période, dans la première période, c'est Romulo Gallegos entre 45 et 48. Après il vient la dictature de Pedro Jiménez. La démocratie commence en 61. Mais dans l'année 83, il y a un clivage. Pourquoi? Parce que l'État souffre des surendettements à nouveau. C'est toujours intéressant de prêter aux riches. Et l'État vénézuélien, entre 76 et 83, on n'a pas réussi à réformer les systèmes politiques, à incorporer des nouvelles classes ouvrières, et on n'a pas réussi à faire une diversification plus approfondie de l'économie. Et les crises mondiales nous rattrapent. Et ce système démocratique-là, c'est la faillite de se faire réformer. Il fallait faire des réformes du système politique pour arriver
à une...
C'est ce qui n'a pas été fait. Après, on aura Chavez en 99, parce qu'entre 83 et 99, c'est une période dans laquelle PDVSA a eu quand même... C'était une obligation pour PDVSA de s'ouvrir au capital étranger pour pouvoir exploiter les pétroles lourds et extra-lourds de l'Orénoque, qui étaient trop cher à exploiter et PDVSA ne pouvait pas le faire seul. C'est ce qu'on appelle les joint ventures. Et là, quand même, ça, c'était pas une privatisation, parce que souvent on dit, ça c'est un mot qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire c'est plutôt l'ouverture pour, d'un capital à un marché pour exploiter ces pétroles-là. Et là, PDVSA devient peut-être trop ambitieuse et l'État vénézuélien perd la main sur des politiques sociales profondes qu'il fallait faire, parce que la masse d'exclusion, c'est-à-dire l'exclusion l'exclusion sociale est devenue un problème dans les années 90, et c'était là les talons d'Achille de tous les schémas d'action démocratique à un moment donné. C'est-à-dire, ça a été une manne pétrolière trop importante et un État qui est devenu omniprésent et à la fois peu efficace, mais rien à voir avec la situation d'aujourd'hui, de toute façon.
Oui, et puis alors, vous évoquiez Chavez, vous rappeliez tout à l'heure comment Chavez, quand il arrive au pouvoir, lance ce bras de fer absolument très important avec PDVSA. Ça devient vraiment l'espace, le théâtre de la lutte et du déploiement de sa révolution bolivarienne. Alors, dans un premier temps, ça va pas poser tellement de problèmes, parce qu'on est dans une période où les prix du baril montent, donc après tout, tout va bien puisque la production est en train de tomber. C'est pas grave parce que le prix monte et puis il y a un moment où ça va commencer à se retourner, ça va poser problème. Vous dites quelque chose, Paula Vasquez Lezama, dans votre livre qui m'a interpellé. Vous dites à propos de Chavez qu'il n'avait pas de vision stratégique du pétrole. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que il y a bien eu, vous l'avez dit tout à l'heure, quand même une coopération très approfondie, par exemple avec la Chine. Est-ce que c'était pas quelque chose qui relève d'une vision stratégique du pétrole?
Et je pense et ça c'est les biographes et les gens qui l'ont interviewé à l'époque, ils savaient pas trop quoi faire avec cette industrie. C'est-à-dire, il y avait, et ça peut-être montre bien les décalages qu'il y avait au Venezuela entre l'économie pétrolière et la non pétrolière. Il y avait des mondes, c'était un pays qui fonctionnait. Il y avait le monde du pétrole, il y avait le monde, les militaires avaient aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais c'était pas la faute, disons, PDVSA, elle était quand même une entreprise qui rendait des comptes à la banque centrale. On a fait une légende noire comme si c'était une boîte noire secrète. Non, c'est-à-dire, c'était transparent. Si on voit les chiffres à l'époque, il y a les bases quantitatives de l'économie vénézuélienne qu'on peut aller voir. Il y a une coïncidence entre ce que PDVSA déclare avoir produit et les revenus que la banque centrale reçoit. Et ça, à mon avis, c'est très important parce que il y a une clarté, c'est ça qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, mais la vision de Chavez par rapport au pétrole, c'était qu'il a pensé que ça se produisait toute seule. Il pense que le pétrole, c'est comme l'or, que ça tombe du ciel. Et il n'a pas fait le choix de réinvestir. Il n'y a pas eu une vision stratégique de réinvestissement. C'est toujours, on se dit, mais c'est toujours plus facile de s'approprier. C'est comme quelqu'un qui est dépensier et qui reçoit une grande somme de capital et qu'au lieu de l'investir et de la faire, il la dépense. Et puis, on va dépenser, on verra bien. Ça s'est produit tout seul, les pétroles dans la tête de Chavez, ça s'est produit tout seul. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des enjeux mondiaux. Il y a les lourds de l'Orinoque qui nécessitaient beaucoup d'investissements. On a détruit, on a détruit la capacité aussi de créer des brevets. PDVSA et Antevep, ils étaient extrêmement fort dans les brevets parce que les raffinages des lourds nécessitent beaucoup de recherches scientifiques et pétrochimiques. Et là, on a décidé d'arrêter les fonds pour la recherche pétrochimique. On a décidé de ne pas faire ce qu'il fallait faire. Il fallait être fait pour que l'industrie aussi soit plus responsable en termes d'environnement même. La sécurité industrielle s'est dégradée d'une manière affreuse. Les systèmes d'alarme et d'évacuation des villes qui sont autour des raffineries de pétrole ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, on a laissé tomber dans la désuétude et dans la ruine toutes les installations pétrolières. C'était un choix politique. Ça, c'est pas la faute du pétrole. C'est pour ça que je conteste la théorie de la malédiction des ressources.
Faudra des années pour mettre ça.
Des années, des générations. des générations. Et d'ailleurs, sûrement, il faudra faire une autre compagnie avec une autre structure adaptée aux besoins actuels et à l'état des réserves actuelles. Et là, je suis utopique avec des critères de développement durable qui sont plus faciles à faire dans le pétrole que pour l'or, par exemple, je pense.
Vous parlez de développement durable, justement, Paula Vasquez, on va y venir, on va s'intéresser à un pays qui n'a pas de pétrole, mais qui a une nature luxuriante sur laquelle il s'est appuyé pour mettre sur pied un modèle économique bien spécifique, c'est le Costa Rica.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous vivons selon un précepte, pura vida. Littéralement, cela veut dire vie pure. On utilise pura vida dans beaucoup de situations différentes. Par exemple, c'est une façon de dire merci, dire simplement pura vida. Mais ça ne veut pas seulement dire vie pure. Il y a des milliers de significations. C'est une façon de vivre.
La fameuse pura vida costaricienne, leader mondial de l'écotourisme, ce Costa Rica, un pays qui a su valoriser ses atouts environnementaux, en faire profiter les touristes et peut-être aussi sa population. Est-ce que c'est réellement le Costa Rica, ce formidable modèle que l'on vend dans les spots publicitaires? Est-ce que c'est réellement ce contre-modèle parfait du modèle extractiviste qui domine en Amérique latine? Bonjour Linda Boucris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, maîtresse de conférences à Paris 1 et puis auteur d'un article. On va en parler dans cet échange intitulé « La fabrique circulatoire d'un patrimoine national ou la coproduction de la nature au Costa Rica ». Mais d'abord, sur de façon un peu générale, Linda Boucris, que vous inspire cette idée que le Costa Rica serait ce contre-modèle du modèle extractiviste latino-américain? Est-ce que ça vous semble correspondre à la réalité ou est-ce qu'il faut nuancer?
Alors oui, je pense qu'il faut, il faudra nuancer cette idée de modèle, mais c'est vrai qu'on peut peut-être commencer par revenir sur la réussite du Costa Rica dans sa promotion de paradis écologique, avec effectivement un pays qui a vraiment une marque verte de renommée internationale. Donc il y a effectivement quand même des spécificités à mettre en valeur dans le cas du Costa Rica, avec dès les années 70, la mise en place d'un système de conservation nationale, et aujourd'hui on est presque à un tiers du territoire hein, qui est protégé sous différents statuts.
Il y a une vraie évolution de ce point de vue-là. Les années 80, la forêt c'est à peu près 20% du territoire, aujourd'hui c'est plus de la moitié. Donc très clairement, il y a ce volontarisme politique et cette logique qui vise à prendre soin de cette nature. Mais nous, ce qui nous intéresse, Linda Boucris, c'est l'autre facette. Il reste encore des logiques extractivistes au Costa Rica, lesquelles?
Bien sûr. Mais je pense que c'est quand même aussi important
de
montrer comment est-ce que aussi on a cette image verte aussi qui s'est façonnée avec un fort soutien de la communauté internationale au Costa Rica, avec une circulation très forte des scientifiques. Hein. Le Costa Rica devient un pôle majeur de recherche en écologie tropicale avec des centres régionaux et internationaux qui sont localisés au Costa Rica, avec un fort soutien aussi des experts internationaux, une présence d'ONG très importante, principalement aussi des États-Unis, qui vont accompagner les élites politiques costariciennes dans la mise en œuvre des programmes de conservation, puis une circulation aussi des capitaux internationaux, avec tous ces programmes aussi de dette contre nature, des bailleurs de fonds internationaux qui vont financer les programmes de reboisement. Hein, vous évoquez effectivement le passage de 20 à 50%, c'est aussi tous ces programmes de remboisement qui ont été réalisés en échange d'un effacement de la dette. Donc toute une dynamique qui va se mettre en place avec aussi l'opportunité du développement économique. Et dans les années 90, ça va s'accentuer une institutionnalisation de l'environnement. Et en cela, il faut quand même aussi souligner 95, la réforme constitutionnelle qui déclare que tout citoyen a le droit à un environnement sain, écologiquement équilibré. Il y a quand même aussi cette idée de faire l'environnement l'ADN de la nation costaricienne. On pense aussi à tous ces gros programmes, ces annonces fortes du Costa Rica qui ont toujours des échos internationaux retentissants, comme celui d'être carbone neutre, le premier pays carbone neutre d'ici 2050. Vous voyez, donc de gros investissements.
L'action
costaricienne à ses ressources naturelles.
On entend parfaitement Linda Boucris, mais c'est vrai que c'est, disons, la dimension plus connue du Costa Rica. Moi, celle qui m'intéresse, c'est l'autre, justement. Les logiques extractivistes, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Oui, lorsque vous m'aviez contacté, j'avais effectivement dit que je voulais absolument nuancer l'idée du modèle.
Alors allons-y.
Qui n'échappe pas à ces contradictions. Effectivement, on est dans un régime d'exploitation des ressources qui s'inscrit dans une logique de prédation. Vous savez, il y a un atlas de justice environnementale qui est accessible d'ailleurs en ligne, qui est réalisé par une équipe de chercheurs en écologie politique et qui recense tous les conflits de tensions socio-environnementaux dans le monde, et on retrouve un certain nombre de conflits socio-environnementaux au Costa Rica, liés notamment au développement touristique, hein, avec une logique de prédation des ressources, notamment en eau, de prédation foncière, donc un certain nombre de conflits liés à ce développement touristique. Et puis surtout aussi, le Costa Rica, c'est une économie également agricole tournée vers l'exportation, hein, c'est... historiquement, c'est aussi le lieu de naissance de la compagnie états-unienne United Fruit Company avec les plantations de bananes. Et donc, on retrouve un certain nombre de conflits qui se cristallisent beaucoup autour de l'usage intensif des pesticides au Costa Rica. Et les luttes des environnementalistes actuellement se cristallisent beaucoup sur la culture de l'ananas, hein, avec le Costa Rica qui est l'un des premiers producteurs mondiaux d'ananas. Et là, ça présente de vrais enjeux en matière environnementale, une transformation du couvert forestier en culture de l'ananas, donc une expansion rapide qui se fait aussi beaucoup dans l'illégalité, des conséquences très graves en matière de pollution des sols, des nappes phréatiques, liées à l'usage important des pesticides.
Oui, donc tout n'est pas réglé, et il y a évidemment des conflits socio-environnementaux. Et d'ailleurs, il y a quelques mois encore, il y a un célèbre leader indien de l'ethnie Bribri qui s'appelle Sergio Rojas, qui a été retrouvé mort, assassiné par balle sur le territoire indien de Salitre, dans l'ouest du pays, ce qui montre qu'évidemment les choses ne sont pas réglées. Si j'en reviens à la question de l'économie, donc il y a évidemment les trois piliers de l'économie costaricienne, c'est le tourisme, l'agriculture, et puis c'est aussi peut-être l'industrie de pointe, on le sait moins, mais par exemple Intel, le fabricant de semi-conducteurs, est présent et ça rapporte beaucoup. Mais la question surtout, c'est à qui ça rapporte ? Est-ce que cette richesse, elle est répartie ?
Oui, alors je pense que de la même façon que ma collègue Paula Vasquez a commencé en soulignant l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité de l'économie, enfin du pétrole, je dirais qu'il n'y a pas non plus de bénédiction de la biodiversité. Je pense que c'est vraiment important aussi de souligner les facteurs politiques. Et la raison pour laquelle aussi, finalement, toutes ces politiques environnementales ont pu être développées, c'est parce qu'il y avait aussi cette stabilité politique, et c'est aussi l'image du paradis politique qui a permis de mettre en œuvre ces politiques. Et qui ont eu des résultats, je veux dire, on a effectivement le Costa Rica qui présente des indicateurs socio-économiques qui sont relativement élevés par rapport aux pays voisins. Hein, qu'est-ce qui fait que le Costa Rica se retrouve dans cette situation et pas le Panama qui possède une biodiversité tout aussi riche ? C'est le poids des facteurs politiques. C'est une histoire politique au Costa Rica qui est marquée par une démocratie libérale, le libéralisme politique, une démocratie sociale, mais aussi pacifique, l'abolition de l'armée, la déclaration de la neutralité, etc. Donc une exception costaricienne qui permet d'expliquer cette captation des capitaux internationaux de la conservation et le fort soutien de la communauté internationale.
D'ailleurs, de ce point de vue-là, Linda Boucris, et là j'en viens justement à cet article que j'évoquais tout à l'heure, la fabrique circulatoire d'un patrimoine national ou la coproduction de la nature au Costa Rica, vous expliquez comment on a construit un peu ce discours autour de la stabilité politique du pays, qui a toujours été un élément visiblement très important dans l'identité du pays. Vous expliquez comment au 19e siècle, on cultivait cette idée aussi que cette stabilité politique, elle était liée à la blanchitude de sa population. Si le pays était stable, c'est parce que sa population était blanche. Est-ce que ce discours racialiste, voire carrément raciste, il existe aujourd'hui toujours au Costa Rica? Et est-ce qu'au fond, si on revient à la question de l'environnement, est-ce qu'on considère que le pays est aussi exemplaire concernant l'environnement parce que sa population est blanche? Est-ce qu'il en reste encore quelque chose, Linda Boucris?
Alors c'est effectivement tout l'enjeu hein, de décrypter un petit peu de ce soubassement idéologique, de cette différenciation de l'exception costaricienne. Et effectivement, la blanchitude de la nation telle qu'elle a été forgée au 19e, avec ses conséquences en matière de racialisation des populations afrodescendantes et indigènes, eh bien effectivement, hein, on en retrouve des traces dans le présent hein, et le paradigme national qui s'était construit autrefois sur la différence blanche, il se forge aujourd'hui sur la différence verte et il présente encore une fois des conséquences avec de vrais enjeux en matière de racialisation. Encore aujourd'hui, hein, on débat de la nation pluriethnique, il y a un certain nombre de processus de discrimination à l'égard des populations afrodescendantes. Donc il y a effectivement des enjeux majeurs encore aujourd'hui. Mais peut-être ce qui est intéressant, ce que vous avez évoqué aussi, c'est la synergie avec les autres secteurs de l'économie. C'est-à-dire cette double image paradis écologique, paradis politique, elle a vraiment été clé dans le développement touristique du pays. Mais elle a permis aussi justement d'attirer tous ces investissements étrangers dans d'autres secteurs, et notamment les biens manufacturés à haute valeur ajouter, Intel a été l'un des premiers, effectivement, une première entreprise pour la production de puces informatiques, qui a été suivie par HP, Dell, et donc c'est effectivement ce secteur de haute technologie qui est aussi très présent au Costa Rica et qui s'explique par cette image de pays différents au sein de l'isthme centra-américain.
Paula Vasquez, peut-être une réaction sur ce point. Alors évidemment, le Costa Rica, c'est ce qu'on sait, le tourisme, la verdure, l'environnement, tout ça est absolument magnifique. Mais c'est aussi une autre facette qu'on a un peu décrit avec Linda Boucris. Je parlais de la question de la répartition des richesses. J'ai regardé à tout hasard comment on organisait cette répartition des richesses du côté du Costa Rica. Et pour ce faire, j'ai regardé à quoi ressemblait un peu la fiscalité, parce que c'est quand même l'outil favori pour redistribuer un petit peu les richesses. Eh bien, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les successions, pas d'impôt sur les donations, pas de taxes sur les plus-values. C'est pas non plus un modèle très redistributif, ce Costa Rica.
Mais c'est ça qui est crucial, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec les modèles de développement aujourd'hui en Amérique latine, c'est-à-dire quelle est la force qui ont les États pour avoir des critères, des redistributions qui protègent les biens communs et on protège les intérêts des qui. Et dans les cas vénézuéliens, on voit surtout cette question des militarismes, c'est une question plutôt des prétorianismes, comme on les voit dans les cas de la gestion des PDVSA, qui est la source donc d'un revenu qui devrait être redistribué. Elle obéit à des critères prétoriens qui, même si militaires, sont très loin de l'intérêt du bien commun, de l'État, etc. Donc c'est une question qui traverse l'Amérique latine, c'est-à-dire les intérêts, les biens. Il est où les biens communs dans l'action de l'État?
No lo suelta, vuelve y se queda y va, azafando la sombra de tu suela. Corre, sube en cara, me escamotea. No la va ni perta, batea. Esa huella que vuelve diciendo, repeat after me. Vuelve la huella y va, regresando al paso, no lo suelta, vuelve y se queda y va, azafando la sombra de tu suela. Corre, sube en cara, me escamotea. No la va ni perta, batea. Esa huella que vuelve diciendo, repeat after me.
Merci beaucoup à Linda Boucris qui était à l'instant avec nous par téléphone. Un grand merci également à vous, Paula Vasquez, les Amas, nous avoir accompagnés pour parler de ce Venezuela et de cette ressource maudite peut-être du pétrole, mais évidemment ça va bien au-delà. La situation, on l'a compris, c'est pas seulement lié à ce pétrole. Je rappellerai vous concernant Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos, qui est paru chez Buchet-Chastel. C'est probablement une des meilleures analyses qui existent sur le Venezuela. Aujourd'hui, un grand merci d'avoir été avec nous, Paula Vasquez, les Amas. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, vous avez mentionné l'ouvrage de Aude Arnvestad, paru chez Perrin, Histoire mondiale de la guerre froide. Le sous-titre est un peu intriguant. 1890-1991, les historiens ont tendance à dater l'entrée en guerre froide de l'année 1947.
Et oui, c'est cette année-là que Walter Lippmann, l'un des éditorialistes les plus en vue des États-Unis, publia une série d'articles consacrés à ce sujet, la guerre froide. L'Union soviétique, qui était considérée par les États-Unis comme un allié valeureux dans le combat contre le Troisième Reich, commença à être perçue à Washington comme un adversaire. Bientôt, ce serait un ennemi. Mais selon Vestad, la guerre froide aurait débuté en Pologne. C'est là, je cite, que la politique de Staline sur l'imposition d'un régime soviétique rigoureux s'est heurtée à la volonté des alliés autant que de la grande majorité des Polonais. Fin de citation. Cette thèse se discute. La résistance polonaise au nazisme a été l'une des plus impressionnantes de cette guerre. La Pologne fut l'un des rares pays occupés où les nazis ne trouvèrent jamais de gouvernement de collaboration. Comme disait Czesław Miłosz, s'ils s'étaient trouvés des candidats parmi les politiciens d'avant-guerre, ils auraient été liquidés par l'armée de l'intérieur, la résistance, au cours de la nuit suivante. L'insurrection de Varsovie, qui dura plus de 2 mois, durant l'été 44, avait immobilisé dans la capitale polonaise d'importantes forces allemandes. Elle permit à l'armée rouge de parvenir jusqu'à la Vistule, où celle-ci stoppa son offensive, se gardant bien de venir au secours des insurgés polonais. Plus de 200 000 Polonais y trouvèrent la mort. Traiter cette nation alliée presque aussi mal que certains pays collaborateurs du Troisième Reich, comme le fit Staline, indigna l'opinion britannique et elle mobilisa aussi la diaspora polonaise aux États-Unis.
Brice, Maria Novak a publié cette année un livre très documenté sur cette affaire, pour notre liberté et pour la vôtre.
Eh oui, et son sous-titre en résume bien le propos. Comment la Pologne a été abandonnée par ses alliés. Si la guerre froide n'a pas vraiment débuté en Pologne, si cette nation alliée a été abandonnée aux soviétiques et à leurs mandataires communistes locaux, eh bien cette trahison a cependant frappé bien des esprits en Occident. Car ces événements survenaient alors que le président Truman cherchait encore à définir sa politique face à un Staline qui occupait déjà la moitié de l'Europe. Et il n'avait pas caché à Yalta, Staline, qu'il comptait installer son propre système politique dans tous les pays d'où l'armée rouge aurait chassé la Wehrmacht. Churchill, beaucoup moins naïf que les Américains, les avait mis en garde dès mars 1946 avec son fameux discours sur le rideau de fer. Et au même moment, George Kennan, un diplomate américain en poste à Moscou, avait envoyé à Washington son fameux long télégramme. Il y décrivait la politique de Staline comme agressive et expansionniste. Et c'est sous son influence que fut conçue la politique américaine dite de « containment », l'endiguement de l'URSS partout dans le monde. Et elle devait prendre une forme à la fois politique, militaire, mais culturelle aussi. Et l'originalité du livre de Vestad est à cet égard double. Il prend en considération l'aspect idéologique de cette guerre froide et c'est pourquoi il commence son récit précisément par ces années 1890. Parce que c'est à cette époque, en effet, que Lénine publie ses premiers pamphlets contre le réformisme des sociodémocrates allemands. On ne saurait réduire la guerre froide à une lutte pour l'hégémonie mondiale entre deux empires, ce fut aussi et surtout un combat entre deux formules politiques. Les Américains, tout autant que les Soviétiques, étaient animés d'une idéologie. Ils pensaient avoir la mission de défendre et de répandre la liberté dans le monde et leurs dirigeants réagissaient en fonction de cette vision du monde. De leur côté, les Soviétiques considéraient les dirigeants américains comme les représentants d'une classe sociale condamnée par les lois de l'histoire selon la doctrine marxiste. Deuxième originalité, Vestad décentre le conflit. On le sait, les spécialistes en relations internationales et en questions militaires qui ont longtemps dominé ce champ d'études, la guerre froide, ont eu tendance à se focaliser sur l'Europe. Vestad n'ignore rien de ce qui s'y est passé en Europe depuis le blocus de Berlin par les soviétiques jusqu'à l'ouverture surprise du mur de Berlin le 9 novembre 1989, qu'on va célébrer, après que déjà 100 000 Allemands de l'Est aient fui leur pays en transitant par la Hongrie quelques semaines plus tôt. Mais il étudie aussi les répercussions de la guerre froide dans ce qu'Alfred Sauvy avait baptisé le tiers-monde. Et il étudie en particulier fort bien le rôle de la Chine et de l'Inde. La première, désireuse de ravir à l'URSS le titre d'émancipatrice des pays du Sud, entra vite en rivalité, puis en conflit ouvert et même armé avec son ancien protecteur. D'où l'alliance de revers très étonnante avec les États-Unis. L'Inde s'inspira longtemps des méthodes de développement en application dans les pays socialistes, la planification, tout en cherchant à organiser un bloc des non-alignés de manière à préserver son indépendance.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve lundi pour ce qui est de l'antenne, mais demain pour ce qui est du site internet, hein, puisque le vendredi vous publiez votre chronique sur la page du Monde des Idées. On vous retrouve donc lundi.